Les maîtres sonneurs, sixième veillée. Je ne me demandais pas longtemps ce que j'allais faire de cette bande malfaisante. Je tirai droit sur le domaine de l'Aunière, pensant, avec raison, qu'il me serait aisé d'ouvrir la barrière de la cour, d'y faire entrer tout mon monde, après quoi j'éveillerai les métayers, lesquels, avertis du dommage, agiraient comme bon leur semblerait. J'approchai du domaine, lorsque, par aventure, il me parut voir, sur le chemin, un homme qui accourait derrière moi. J'armai mon fusil, songeant que si c'était le maître des mulets, j'aurais maille à partir avec lui. Mais c'était Joseph, qui revenait de conduire Brulette au bourg et qui retournait à l'Aunière. « Que fais-tu là, Tiennet ?» me dit-il, en me rejoignant au plus vite qu'il put courir. « Ne t'avais-je point averti de ne pas sortir de chez toi? Tu te mets là en danger de mort. Lâche ce cheval et ne te soucie de ces bêtes. Ce qu'on ne peut t'empêcher, il vaut mieux de souffrir que chercher un pire mal. »« Merci, mon camarade, que je lui réponds. Tu as des amis bien aimables qui viennent faire parturer leur cavalerie dans mon bien et je ne soufflerai mot. C'est bon, passe ton chemin si tu as peur. Moi, j'irai jusqu'au bout. Et me ferai raison par justice ou par force. » Comme je disais cela, m'étant arrêté avec les bêtes pour lui répondre, nous entendîmes japper au loin, et José, prenant vivement la corde qui me servait à mener le cheval, me dit « Alerte, Tiennet, voilà les chiens du muletier. Si tu ne veux être dévoré, lâche le clairin. Aussi bien, le voilà qui reconnaît la voix de ses gardiens. » Et tu n'en aurais pas bon marché maintenant. » Il disait vrai. Le clairin avait dressé les oreilles en avant pour écouter, puis, les couchant en arrière, ce qui est une grande marque de dépit, il se mit à hennir, à se cabrer, à ruer, ce qui mit toutes les mules en danse autour de nous, si bien que nous n'eûmes que le temps de nous en retirer, laissant partir le tout, bride avalée, du côté des chiens. Je n'étais guère content de céder, et comme les chiens, après avoir rassemblé leur troupeau enragé, faisaient mine de venir sur nous pour nous demander nos comptes, je fis celle d'abattre d'un coup de fusil le premier des deux qui me porterait la parole. Mais José alla au-devant de lui et s'en fit reconnaître. « Ah, Satan !» lui dit-il, « vous êtes en faute. Vous vous êtes amusé à courir quelques lièvres dans les blés au lieu de garder vos bêtes. » Et quand votre maître se réveillera, vous serez corrigé si vous n'êtes pas à votre poste, avec Louveteau et le clairin. » Le chien Satan, connaissant qu'on lui faisait reproche de sa conduite, obéit à José, qui l'appela vers une grande friche où les mules pouvaient pâturer sans faire de dommages, et où Joseph me dit qu'il resterait à les garder jusqu'au retour de leur maître. « C'est égal, José, lui dis-je. Ça ne se passera pas si tranquillement que tu crois. Et si tu ne veux me dire où est caché le maître de ces mulets, je resterai là à l'attendre aussi, pour lui dire son fait, et demander réparation du tort qu'il m'a causé. » « Je vois bien, reprit Joseph, que tu ne sais pas la vie des muletiers, puisque tu crois si commode d'en avoir raison. Et de vrai, c'est, je crois, la première fois qu'il en passe par ici. Ce n'est point leur chemin, puisque d'ordinaire ils descendent des bois du Bourbonnais par ceux de Meillan et de l'Épinasse, pour passer dans ceux de Cheur. C'est par aventure que je me suis trouvé en rencontrer dans la forêt de Saint-Chartier, où ils faisaient halte, pour gagner Saint-Août, et du nombre était celui-ci, qui s'appelle Uriel, et qui est demandé à présent aux forges d'Ardente, pour porter du charbon et du minerai. Il a bien voulu se détancer d'une couple d'heures pour m'obliger. Il s'ensuit qu'ayant quitté ses compagnons et les pays de Brande, qui se trouvent sur le chemin fréquenté de ceux de son état, et où les mules peuvent pâturer sans nuire à personne, il a peut-être cru pouvoir se donner même licence dans nos pays de grain. Et encore qu'il ait grand tort, il serait mal commode de lui faire entendre qu'il n'y a pas droit. « Et si, faudra-t-il bien qu'il l'entende de moi ?» répondis-je, « car je sais maintenant de quoi il retourne. Oh, des muletiers, on sait ce que c'est. et tu me donnes souvenance de ce que j'en ai ouï raconter à mon parrain Gervais, le forestier. Ce sont gens sauvages, méchants et mal appris, qui vous tuent un homme dans un bois avec aussi peu de conscience qu'un lapin, qui se prétendent le droit de ne nourrir leurs bêtes qu'aux dépens du paysan, et qui, si on le trouve malséant, et qu'ils ne soient pas les plus forts pour résister, reviennent plus tard, ou envoient leurs compagnons faire périr vos bœufs par maléfice, brûler vos bâtiments, ou pis encore, car ils se soutiennent comme larrons en foire. Puisque tu as ouï parler de ces choses, dit Joseph, tu vois que nous aurions tort, pour un petit dommage, d'en attirer un plus grand aux métayers, mes maîtres, et à ta famille. Je suis loin de trouver bon ce qui s'est passé. Et quand maître Huriel m'a dit qu'il allait faire pâturer par ici et faire s'accoucher à la Belle Étoile, comme ils font en tout temps et en tout lieu, je lui avais enseigné cette chaume et recommandé de ne pas laisser promener ses mulets dans les terres ensemencées. Il me l'avait promis, car il n'est pas méchant. Mais il a les sens bien vifs et ne reculerait pas devant une bande de monde qui lui tomberait sur le corps. Sans doute, il pourrait bien demeurer sur la place. Mais je te demande, Tiennet, si un dommage de 10 ou 12 boisseaux de grain, je mets tout au pis, mérite mort d'homme, et tout ce qui s'ensuit pour ceux qui auraient fait ce mauvais coup. Retourne donc à ton bien, vire les mauvaises bêtes, mais ne cherche querelle à personne. Si on te questionne demain, dis que tu n'as rien vu, car de témoigner en justice contre un muletier, c'est quasiment aussi mauvais que de témoigner contre un seigneur. » Joseph avait raison. Je m'y rendis et repris le chemin de chez nous. Mais je n'en étais pas plus content pour ça, car de reculer devant la crainte d'un défi, c'est sagesse pour les vieux et dépit pour les jeunes. J'approchais de ma maison, bien décidé à ne me point coucher, quand il me parut y voir de la clarté. Je redoublai des jambes, et trouvant grande ouverte la porte que j'avais laissée fermée au loquetoir, j'avançai sans froidir, et vis un homme, dans ma cheminée, allumant sa pipe à une flambée qu'il s'était faite. Il se retourna pour me regarder, aussi tranquillement que si j'entrais chez lui, et je reconnus l'homme en charbonnet que Joseph nommait Huriel. Alors la colère me revint, et fermant la porte derrière moi, « C'est bien, » que je fis en m'avançant sur lui. « Je suis content que vous veniez dans la gueule du loup. Nous allons nous dire 2 mots à cette heure. »« 3, si vous voulez, » fit-il en s'asseyant sur ses talons et en tirant le feu de sa pipe, dont le tabac était humide et ne prenait pas. Et il ajouta, comme en se moquant, « Il n'y a pas seulement chez vous une mauvaise pincette pour prendre à la braise. »« Non, » que je répondis. « Mais il y a une bonne trique pour rabattre vos coutures. »« Pourquoi donc ça, s'il vous plaît ? » fit-il encore sans perdre une miette de son assurance. « Vous êtes fâché que j'entre chez vous sans permission. Pourquoi n'y étiez-vous point ? » ?»« J'ai frappé à la porte, j'ai demandé du feu, ça ne se refuse jamais. »« Qui ne répond consent ? » ?»« J'ai poussé le loquet. » »« Pourquoi n'avez-vous point de serrure si vous craignez les voleurs ?» J'ai regardé vers les lits, j'ai trouvé maison vide. J'ai allumé ma pipe, et me voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire ? En parlant comme je vous dis, il prit son fusil dans sa main, comme pour en examiner la batterie, mais c'était bien pour me dire « Si vous êtes armé, je les suis pareillement, et nous serons à 2 de jeu. » J'eus l'idée de le coucher en joue pour le tenir en respect. Mais à mesure que je regardais sa figure noircie, je lui trouvais un air si ouvert et un œil éveillé si bon enfant que je sentais moins de colère que de fierté. C'était un jeune homme de 25 ans tout au plus, grand et fort, et qui, rasé et lavé, pouvait être joli garçon. Je posai mon fusil au long du mur et, m'approchant de lui sans crainte, « Causons. » lui dis-je en m'asseyant à son côté. « À vos souhaits, » fit-il, posant pareillement son arme. « C'est vous qu'on nomme Huriel ? Et vous, Étienne Depardieu ? D'où savez-vous mon nom ? D'où vous savez le mien ? de notre petit ami Joseph Picot. C'est donc à vous les mulets que je viens de prendre. » « Que vous venez de prendre ? » fit-il en se levant, à moitié d'étonnement. Puis, se mettant à rire, « Vous plaisantez, on ne prend pas mes mulets comme ça. »«
Si fait, » lui répondis-je, « on les prend en emmenant le clairin. »«
Ah, vous connaissez la manière, » dit-il d'un air de défiance.
« Mais les chiens ?»«
On ne craint pas les chiens quand on a un bon fusil dans la main. » »«
Auriez-vous tué mes chiens ?»
fit-il encore en se levant tout à fait. Et sa figure flamba de colère, d'où je vis que, s'il était d'humeur joviale, il pouvait aussi être terrible à son moment.
« J'aurais pu tuer vos chiens, » répondis-je. « J'aurais pu emmener vos bêtes en fourrière dans une métairie, où vous auriez trouvé une dizaine de bons gars pour parlementer. Je ne l'ai pas fait, parce que Joseph m'a remontré que vous étiez seul, et que, pour un dommage, c'était l'âge de mettre un homme seul dans le cas de se faire tuer. J'ai écouté cette raison-là. Mais nous voilà un contre un. Vos bêtes ont gâté mon champ et celui de ma sœur. De plus, vous venez d'entrer chez moi en mon absence, ce qui est malhonnête et insolent. Vous allez me faire excuse de votre comportement, me proposer indemnité pour le dommage de mon grain, ou bien...
« Ou bien quoi ? » dit-il en ricanant.
« Ou bien nous allons plaider selon les droits et coutumes du Berry, qui sont, je pense, les mêmes que ceux du Bourbonnais, quand on prend les points pour avocat. »
« C'est-à-dire aux droits du plus fort, » fit-il en retroussant ses manches.
« Ça me va mieux que d'aller devant les procureurs. Et si vous êtes seul, si vous n'agissez pas en traître,
venez dehors. » « Lui dis-je, vous verrez que je suis seul. Vous avez tort de me faire injure, car en entrant ici, je vous tenais au bout de mon fusil. Mais les armes sont faites pour tuer les loups et les chiens enragés. Je n'ai pas voulu vous traiter comme une bête, et bien qu'à présent vous soyez en mesure de me fusiller aussi, je trouve qu'entre hommes, c'est lâche de s'envoyer des balles, la force ayant été donnée aux humains pour s'en servir. »
« Vous ne me paraissez pas plus manchot que moi, et vous avez du cœur. »«
Mon garçon, » fit-il en me tirant auprès du feu pour me regarder, « vous avez peut-être tort. Vous êtes plus jeune que moi, et encore que vous paraissiez sec et solide, je ne répondrai pas de votre peau. J'aimerais mieux que vous me parliez gentiment pour me réclamer votre dû et vous en remettre à ma justice. »«
En voilà assez !» lui dis-je en lui faisant tomber son chapeau dans les cendres pour le fâcher. « C'est le mieux cogné de nous deux qui sera le plus gentil tout à l'heure. »
Il ramassa son chapeau tranquillement, le mit sur la table et dit « Quelles sont vos coutumes dans le pays d'ici ?»«
Entre jeunes gens, » répondis-je, « il n'y a ni malice ni traîtrise. On se trouve à bras-le-corps, on tape où l'on peut, sauf la figure. » Celui qui prend un bâton ou une pierre est réputé coquin et assassin.
C'est comme chez nous, fit-il. Marchons donc, j'ai intention de vous ménager. Mais si j'y vas plus fort que je ne veux, rendez-vous. Car il y a un moment, vous le savez, où on ne peut pas bien répondre de soi. Quand nous fûmes dehors, à même l'herbe drue, nous mîmes habit bas, pour ne nous point gâter inutilement, et commençâmes à nous tourer en nous serrant les flancs et en nous enlevant l'un l'autre. J'avais avantage sur lui, pour ce qu'il était plus grand de toute la tête et que son grand abattage me donnait meilleure prise. D'ailleurs, il n'était pas échauffé, et croyant avoir trop vite raison de moi, il ne donnait pas sa force, si bien que je le déracinai à la troisième suée et l'étendis sous moi. Mais là, il reprit son avoir, et devant que j'eusse le temps de frapper, il se roula comme un serpent et m'enlaça si serré que j'en perdais mon soupir. Pourtant, je trouvai moyen de me relever avant lui et de lui revenir su. Quand il vit qu'il avait affaire à franche partie et attrapé du bon dans l'estomac et sur les épaules, il m'emporta aussi de rude, et je dois dire que son poing pesait comme un marteau de forge.
mais j'y serais mort plutôt que d'en rien sentir. Et chaque fois qu'il me criait « Rends-toi !» le courage et le moyen me revenaient pour le payer en même argent. Si bien qu'un bon quart d'heure durant, la lutte sembla égale. Enfin, je sentis que je m'épuisais, tandis qu'il ne faisait que de s'y mettre. Car s'il n'avait pas les ressorts meilleurs que moi, il avait pour lui l'âge et le tempérament. Et, de fine force, je me trouvais dessous et bien battu, sans pouvoir me dégager. Nonobstant, je ne voulus crier merci. Et quand il vit que je m'y ferais tuer, il se comporta en homme généreux. « En voilà assez, » fit-il en me lâchant le gosier. « Tu as la tête plus dure que les os, je vois ça, et je te les casserai avant de la faire céder. C'est bien. Puisque tu es un homme, soyons amis. Je te fais excuse d'être entré en ta maison, et à cette heure, voyons les ravages que t'ont fait mes mules. Me voilà prêt à te payer aussi franchement que je t'ai battu. Après quoi, tu me donneras un verre de vin, afin que nous nous quittions bons camarades. » Le marché conclut, et quand j'eus empoché 3 bons écus qu'il me donna pour moi et mon beau-frère, j'allai tirer du vin et nous nous mîmes à table. 3 pichets de 2 pintes y passèrent, le temps de dire les grâces, car nous étions bien altérés au jeu que nous avions joué, et maître Riel avait un coffre qui en tenait tant qu'on voulait. Il me parut bon compagnon, beau causeur et aimable à vivre au possible. Et moi, ne voulant pas rester en arrière de paroles et d'actions, je remplissais son verre à chaque minute et lui faisais des jurements d'amitié à casser les vitres. Il ne paraissait point se sentir de la bataille. Si fait bien, m'en ressentais-je. Mais ne voulant pas le montrer, je lui fis offre d'une chanson et j'en tirai une, avec un peu d'effort, de mon gosier, encore chaud de la pressurer de ses mains. Il n'en fit que rire. « Camarade, me dit-il, ni toi ni les tiens ne savez ce que c'est que chanter. Vos airs sont fades et votre souffle écourté, comme vos idées et vos plaisirs. Vous êtes une race de colimaçons, humant toujours même vent et suçant même écorce, car vous pensez que le monde finit à ces collines bleues qui cerclent votre ciel et qui sont les forêts de mon pays. Moi, je te dis, Tiéné, que c'est là que le monde commence, et que tu marcherais de ton meilleur pas, bien des jours et des nuits, avant de sortir de ces grands bois, auprès desquels les vôtres sont des carrés de poirames. Et quand tu en aurais gagné le bout, tu trouverais des montagnes et encore des bois, tels que tu n'en as jamais vus, car ce sont de grands et beaux sapins d'Auvergne, inconnus dans vos plaines grasses. Mais à quoi bon te parler de ces endroits que tu ne verras jamais? Le Berrichon, je le sais, est une pierre qui roule d'un sillon sur l'autre, revenant toujours sur celui de droite quand la charrue l'a poussé pour une saison sur celui de gauche. Il respire un air lourd, il aime ses aises, il n'a point de curiosité. Il chérit son argent et ne le dépense point. Mais il ne sait pas l'augmenter et n'a ni invention ni courage. « Je ne dis pas ça pour toi, Tiéné. Tu sais te battre, mais c'est pour défendre ton bien, et tu ne saurais pas en acquérir par industrie, comme nous autres, esprits voyageurs, qui vivons partout comme chez nous, et prenons par ruse ou par force ce qu'on ne nous donne pas de bon gré. » « Oui, j'en suis d'accord, répondis-je, mais ne faites-vous pas là un métier de brigand? Voyons, ami Uriel, ne vaut-il pas mieux être moins riche et n'avoir rien à se reprocher? Car enfin, quand, sur vos vieux jours, vous jouirez de votre fortune mal acquise, aurez-vous la conscience bien nette? » « Mal acquise? Voyons, ami Tiéné, dit-il en riant. Vous qui avez, je suppose, comme tous les petits propriétaires de ce pays, 20 moutons, 2 ou 3 chèvres, et peut-être une pauvre bourrique à nourrir sur le communal, quand par inadvertance vous les laissez peler les arbres et manger le blé vert du voisin. Courez-vous en offrir réparation? Ne les ramenez-vous pas au plus vite sans rien dire, quand vous voyez paraître les gardes? Et s'ils vous font procédure, ne pestez-vous contre eux et contre la loi? Et si vous pouviez, sans danger, les tenir dans quelque bon coin, n'est-ce pas sur leurs épaules que vous payerez l'amende à beaucoup de trics? Tenez, c'est par couardise ou par force que vous respectez la règle, et c'est parce que nous y échappons que vous nous blâmez, par jalousie des franchises que nous savons prendre. Je ne peux pas goûter votre morale étrangère, Huriel, mais nous voilà bien loin de la musique. Pourquoi rayez-vous ma musique? Est-ce que vous prétendez en avoir de meilleure? Je ne prétends rien, Tiennet, mais je te dis que la chanson, la liberté, les beaux pays sauvages, la vivacité des esprits, et, si tu veux aussi, l'art de faire fortune sans devenir bête, tout ça se tient comme les doigts de la main. Je te dis que crier n'est pas chanter, et que vous avez beau beugler comme des sourds dans vos chants et dans vos cabarets, ça ne fait pas de la musique. La musique est chez nous, elle n'est pas chez vous. Ton ami José l'a bien senti, lui qui a les sens plus légers que toi. Car pour toi, mon petit Tiennet, je vois bien que je perdrai mon temps à t'en vouloir montrer la différence. Tu es un franc berrichon, comme un moineau franc est un moineau franc, et ce que tu es à cette heure, tu le seras dans 50 ans d'ici. Ton crin aura blanchi, mais ta cervelle n'aura pas pris un jour. « Pourquoi me juges-tu si sot ? » repris-je un peu mortifié. « Sot ? Pas du tout, » dit-il. « Franc de ton cœur et fin de ton intérêt, tu l'es et tu le seras. Mais vivant de ton corps et léger de ton âme, tu ne saurais jamais l'être. » « Voici pourquoi, Tiennet, » dit-il encore en me montrant les meubles qui étaient dans la maison. « Voilà de bons gros lits ventrus où vous dormez dans la plume jusque par-dessus les yeux. Vous êtes gens de bêche et de pioche et faiseurs de grandes taches qui se voient au soleil. Mais il vous faut ensuite la couette de fin duvet pour vous reposer. Nous autres, gens des forêts, nous serions malades s'il fallait nous ensevelir vivants dans des draps et des couvertures. Une hutte de branchages, un lit de fougère, voilà notre mobilier. Et même ceux de nous qui voyagent sans cesse et qui ne se soucient pas de payer dans les auberges ne supportent pas le toit d'une maison sur leur tête. Au cœur des hivers, ils dorment à la franche étoile sur la bâtine de leur mulet et la neige leur sert de linge blanc. Voilà des dressoirs, des tables, des chaises, de la belle vaisselle, des tasses de grès, du bon vin, une crémaillère, des pots à soupe, que sais-je. Il vous faut tout cela pour être content. Vous mettez à chaque repas une bonne heure pour vous lester. Vous mâchonnez comme des bœufs qui ruminent. Aussi, quand il vous faut remettre sur vos jambes et retourner à l'ouvrage, vous avez un crève-cœur qui revient tous les jours 2 ou 3 fois. Vous êtes lourd et pas plus gaillard d'esprit que vos bêtes de trait. Le dimanche, accoudé sur des tables, mangeant plus que votre faim et buvant plus que votre soif, croyant vous divertir et vous réconforter en vous indigérant, soupérant pour des filles qui s'ennuient avec vous sans savoir pourquoi, dansant vos bourrées traînantes dans des chambres ou dans des granges où l'on étouffe, vous faites, d'un jour de liesse et de repos, une pesanteur de plus sur vos estomacs et sur vos esprits. Et la semaine entière vous en paraît plus triste, plus longue et plus dure. Oui, Tiennet, voilà la vie que vous menez. Pour trop chérir vos aises, vous vous faites trop de besoins, et pour trop bien vivre, vous ne vivez pas. Et comment donc vivez-vous, vous autres muletiers ? Lui dis-je, un peu ébranlé de sa critique. Voyons, je ne parle pas de ton pays bourbonnais que je ne connais point, mais de toi, muletier, que je vois là devant moi, buvant rude, mettant les coudes sur la table, n'étant pas fâché de trouver quelque part du feu pour ta pipe et un chrétien pour causer. Es-tu donc fait autrement que les autres hommes? Et quand tu auras mené cette dure vie que tu vantes 20 années, l'argent que tu auras ménagé à te priver de tout, ne le dépenseras-tu pas à te procurer une femme une maison, une table, un bon lit, du bon vin et du repos ?»«
Voilà bien des questions à la fois, Tiennet, » répondit mon hôte.
« Pour un berrichon, ça n'est pas mal raisonné. Je vais tâcher d'y répondre. Tu me vois boire et causer, parce que j'aime le vin et je suis un homme. La table et la société me plaisent même beaucoup plus qu'à toi, par la raison que je n'en ai pas besoin et n'en fais pas mon habitude. Toujours sur pied, mangeant sur le pouce, buvant aux fontaines que je rencontre et dormant sous la feuillée du premier chêne venu, quand par hasard je trouve bonne table et bon vin à discrétion, c'est fait pour moi. Ce n'est plus nécessité. Vivant souvent seul des semaines entières, la société d'un ami m'est tout un dimanche, et dans une heure de causette, je lui en dis plus que dans une journée de cabaret. Je jouis donc de tout, plus que vous autres, parce que je ne fais abus de rien. Si une gentille fillette ou une femme déterminée me vient trouver dans mon hallier, c'est pour me dire qu'elle m'aime ou qu'elle me veut. Elle sait bien que je n'ai pas le temps d'aller me planter auprès d'elle comme un nigaud pour attendre son heure. Et j'avoue qu'en fait d'amour, j'aime ce qui se trouve plutôt que ce qu'il faut chercher et attendre. Quant à l'avenir, Tiennet, je ne sais pas si j'aurai jamais une maison et une famille. Si cela m'arrive, j'en serai plus reconnaissant que toi au bon Dieu, et j'en connaîtrai mieux la douceur. Mais je jure que ma ménagère ne sera point une de vos grosses rougeaudes, eût-elle 20 000 écus en dot. L'homme amoureux de liberté et de bonheur vrai ne se marie pas pour de l'argent. Je n'aimerai jamais qu'une fille blanche et mince comme nos jeunes bouleaux. Une de ces mignonnes, alertes, comme il en pousse sous nos ombrages, et qui chante mieux que vos rossignols. Une fille comme Brulette, pensais-je. Par bonheur, elle n'est point ici, car elle, qui méprise tous ceux qu'elle connaît, se pourrait bien coiffer de se barbouiller, ne fût-ce que par caprice. Le muletier continua. Ah donc, Tiennet, je ne te blâme point de suivre le chemin qui est devant toi. Mais le mien va plus loin et me plaît davantage. Je suis content de te connaître, et si tu as jamais besoin de moi, tu peux me requérir. Je ne demande pas l'appareil. Je sais qu'un habitant des plaines, quand il s'agit de faire une douzaine de lieues pour aller trouver un parent ou un ami, se confesse à son curé et dresse son testament. Pour nous autres, ce n'est pas de même. Nous volons comme des hirondelles, et on nous rencontre quasiment partout. À revoir, une poignée de main, et si tu t'ennuies jamais de ta vie de paysan, appelle le corbeau noir du Bourbonnais à ton aide. Il se souviendra qu'il a cornemusé un air sur ton dos sans fâcherie et qu'il t'a cédé par estime de ton bon courage. 7e veillée. Là-dessus, Huriel alla rejoindre Joseph et moi mon lit, en dépit de la critique du muletier. Car si j'avais, jusque-là, caché par amour-propre et oublié par curiosité le mal que je me sentais dans les os, je n'en étais pas moins vanné des pieds à la tête. Il paraît que maître Huriel reprit sa marche bien allègrement, sans se ressentir de rien. Pour moi, je fus forcé de rester couché environ une semaine, car je crachais le sang et je me sentais l'estomac tout décroché. Joseph me vint visiter et s'étonna de me voir ainsi. Mais par mauvaise honte, je ne lui voulus point raconter mon aventure, voyant que maître Huriel, en lui parlant de moi, ne lui avait pas mentionné de quelle manière nous nous étions expliqués. Il y eut grand étonnement au pays pour le dommage des blés de l'Aunière, et la piste des mulets sur nos chemins fut une chose imaginante. En remettant à mon beau-frère l'argent que j'avais si durement gagné pour lui, je lui racontai le tout, mais sous le secret. Et comme c'était un bon gars bien prudent, il n'en fut rien ébruité. Cependant, Joseph avait caché sa musette au logis de Brulette et n'en pouvait faire usage, pour ce que, d'une part, la rentrée des foins ne lui en laissa pas le temps, et que de l'autre, Brulette, craignant la malice de Carnat, fit de son mieux pour qu'il renonçât à son idée. Joseph feignit de se soumettre. Mais il nous parut bientôt qu'il manigançait un nouveau plan et qu'il songeait de se louer dans une autre paroisse où il espérait d'avoir ses coudées franches. Aux approches de la Saint-Jean d'été, il ne s'en cacha plus et avertit son maître de se procurer un autre laboureur. Mais il ne fut jamais possible de lui faire dire où il voulait aller. Et, comme il avait coutume de dire « Je ne sais pas !» à tout ce qu'il voulait taire, nous crûmes que véritablement il s'en allait à la loue comme les autres, sans avoir rien d'arrêté dans son vouloir. Comme la foire aux chrétiens est grand fête à la ville, Brulette y alla pour danser, et moi aussi. Nous pensions y trouver Joseph, et savoir, à la fin de la journée, pour quel maître et pour quel endroit il se serait décidé. Mais il ne parut ni au matin ni au soir sur la place. Personne ne le vit dans la ville. Il avait laissé sa musette, mais emporté la veille ceux de ses effets qu'il déposait d'ordinaire au logis du père Brulet. Comme nous revenions le soir, Brulette et moi, avec tout son cortège d'amoureux et d'autres jeunesses de notre paroisse, elle me prit le bras, et marchant avec moi sur le bas-côté herbu de la route, à part des autres, elle me dit « Sais-tu, Tiennet, que me voilà en peine de notre José ? Sa mère, que j'ai vue tantôt à la ville, est en grand chagrin et ne se peut imaginer où il aura passé. Il y a longtemps déjà qu'il lui a donné à entendre l'intention qu'il avait de s'en aller un peu plus loin. Mais de savoir où, il n'y a pas eu moyen. Et aujourd'hui, cette pauvre femme se désole. « Et vous, Brulette, lui dis-je, m'est avis que vous n'êtes point du tout gaie et que vous n'avez point dansé du même cœur qu'aux autres fêtes. » « J'en conviens, répondit-elle. J'ai de l'amitié pour ce pauvre gars lunatique. D'abord, c'est par devoir, à cause de sa mère, et puis par accoutumance. Et enfin, c'est pour estime de son flûtage. « Est-il possible que le flûtage te fasse tant d'effet ?»« L'effet n'en a rien de blâmable, cousin. Qu'est-ce que tu y trouves à reprendre ?»«
Rien, mais... »«
Allons, explique-toi donc, » fit-elle en riant, « car il y a longtemps que tu me chantes je ne sais quelle antienne là-dessus. Et je voudrais pouvoir te dire amen pour qu'il n'en soit plus question. »« Eh bien, Brulette, lui dis-je, ne parlons plus de Joseph. » Et parlons de nous deux. Ne veux-tu point comprendre que j'ai un grand amour pour toi? Et ne me veux-tu point dire si tu y répondras un jour ou l'autre? Oh, parles-tu bien sérieusement cette fois? Cette fois comme les autres, ça a toujours été très sérieux de ma part, mêmement quand la honte me faisait tourner la chose en badinage. Alors, dit Brulette en doublant le pas avec moi, pour n'être point écouté de ceux qui nous suivaient. « Dis-moi comment et pourquoi tu m'aimes. Je te répondrai après. » Je vis qu'elle voulait des louanges et de jolies paroles, et je n'étais pas des plus adroits à ce jeu-là. J'y fis de mon mieux et lui dis que depuis que j'étais venu au monde, je n'avais eu qu'elle dans mon idée, comme étant la plus aimable et la plus belle des filles. Mêmement qu'à l'âge où elle n'avait que 12 ans, elle m'avait déjà ensorcelée. Je ne lui apprenais rien de nouveau, et elle confessa s'en être très bien aperçue au catéchisme. Mais, me raillant, « Explique-moi donc, me dit-elle, pourquoi tu n'en es point mort de chagrin, puisque je te rembarrais si bien, et comment tu as fait pour devenir un gars si fort et si bien portant, encore que l'amour te fit, comme tu prétends, sécher sur pied. Ce n'est point là s'expliquer sérieusement, comme tu me le promettais, lui répondis-je. Si fait, répliqua-t-elle, c'est sérieux, car je n'aurai jamais de préférence que pour celui qui pourra me jurer de n'avoir regardé, aimé, convoité que moi dans toute sa vie. Oh, ça, c'est bien, Brulette, m'écriai-je. Et en ce cas, je ne crains personne, sans exception de ton José, qui, j'en conviens, n'a jamais regardé aucune fille, mais dont les yeux ne voient rien, pas même toi, puisqu'il te quitte. Laissons José, c'est convenu, reprit Brulette un peu vivement. « Et puisque tu te vantes de voir si clair, confesse que malgré ton goût pour moi, tu as reluqué déjà plus d'une fille. Ça ne ment pas. Je hais le mensonge. Qu'est-ce que tu comptais si joyeusement l'an passé à la Sylvaine? Et il n'y a pas plus d'un mois ou deux à la Grand-Bonine que tu fis danser sous mon nez deux dimanches de suite. Crois-tu que je sois aveugle et que l'on m'en donne à garder ?» Je fus un peu mortifiée d'abord, et puis, encouragée par l'idée qu'il y avait un brin de jalousie chez Brulette, je lui répondis bien franchement. « Ce que je connais à ces filles, ma cousine, n'est pas assez joli pour que je le répète à une personne que je respecte. Un garçon peut faire des sottises pour se désennuyer, et le regret qu'il en a ensuite prouve d'autant mieux que son cœur et son esprit n'étaient point de la partie. » Brulette devint rouge, mais elle reprit aussitôt. « Alors, Tiennet, tu peux me jurer que mon humeur et ma figure n'ont jamais été rabaissées dans ton estime par la figure et la gentillesse d'aucune autre fille, et cela depuis que tu es au monde ?»« J'en ferai serment, lui dis-je. Fais-le donc, mais donne ton attention et ta religion à ce que tu vas dire. » « Jure-moi par ton père et ta mère, par le bon Dieu et par ta conscience, qu'aucune ne t'a jamais semblé aussi belle que moi. » J'allais jurer, quand, je ne sais comment, un souvenir me fit trembler la langue. Je fus bien simple, peut-être, d'y faire attention, car ça n'en eût pas valu la peine pour un esprit plus dégourdi que le mien. Mais il ne me fut point possible de mentir, au moment où l'image me revint si claire devant les yeux. Et pourtant, je l'avais oubliée jusqu'à cette heure, et je n'y eusse peut-être jamais repensé, sans les questions et les commandements de Brulette. « Tu n'y vas point vite, » dit-elle, « mais j'aime mieux ça. Je t'estimerai pour une vérité et te mépriserai pour un mensonge. » « Eh bien, Brulette, » répondis-je, « puisque tu veux que je sois juste, sois-le aussi. Dans toute ma vie, j'ai vu deux filles, deux enfants, l'on peut dire, à l'une desquelles j'aurais bargainé à donner la préférence si l'on m'eût dit dans ce temps-là, où je n'étais qu'un enfant moi-même, « Voilà les deux mignonnes qui t'écouteront dans la suite des temps. Choisis celle que tu voudrais avoir pour femme. » J'aurais sans doute dit « C'est ma cousine. » parce que je te connaissais aimable, et que de l'autre, je ne savais rien de rien, l'ayant vu en tout 10 minutes. Et cependant, par réflexion, il est possible que j'eusse senti quelques regrets, non parce qu'elle était plus parfaite que toi en beauté, je ne crois point la chose possible, mais parce qu'elle me donna un baiser, gros et bon sur chaque joue, lequel je n'avais et n'ai encore jamais reçu de toi. D'où j'aurais pu conclure qu'elle était fille à donner un jour son cœur bien franchement, tandis que la discrétion du tien me tenait dès lors, et m'a toujours tenue depuis, en peine et en crainte. « Où donc est cette fille à présent ?» demanda Brulette, qui me parut saisie de ce que je disais. « Et comment est-ce qu'on la nomme ?» Elle fut bien étonnée d'apprendre que je ne savais ni son nom ni son pays, et que dans ma souvenance, je ne la pouvais désigner qu'en l'appelant la fille des bois. Je lui racontai simplement la petite aventure de la charrette embourbée, et elle en prit occasion de me faire plus de questions que je n'en pouvais contenter, car il y avait déjà de la confusion dans mes remembrances, et je ne faisais point tant d'état d'une si chétive affaire que Brulette en voulait supposer. Sa tête travaillait pour comprendre chaque mot qu'elle m'arrachait, et on eût dit qu'elle se questionnait elle-même, avec un peu de dépit, pour savoir si elle était assez jolie pour avoir tant d'exigences, et si le moyen de plaire au garçon était la franchise ou le déguisement. Peut-être qu'elle fut tentée un petit moment de me faire oublier, par des coquetteries, cette petite revenante que j'avais dans la tête, et qui, plus que de raison, lui portait ombrage. Mais après 2 ou 3 mots de badinage, elle répondit à mes reproches. « Non, Tiennet, je ne te ferai pas un tort d'avoir eu des yeux pour une jolie fille. quand la chose est innocente et naturelle comme tu me la racontes. Mais cette bêtise-là, dont nous venons d'amuser nos esprits, a tourné le mien, je ne sais comment, à des réflexions sérieuses sur toi et sur moi. Je suis coquette, mon bon cousin. Je sens cette fièvre-là jusque dans la racine de mes cheveux. Je ne sais point si j'en guérirai. Mais tel que me voilà, je ne songe à l'amour et au mariage que comme à la fin de toute aise et de toute fête. J'ai 18 ans et c'est déjà l'âge de réfléchir. Eh bien, la réflexion ne me vient encore que comme un coup de poing dans l'estomac. Tandis que toi, dès l'âge de 15 ou 16 ans, tu t'es déjà questionné sur la manière d'être heureux en ménage. Et là-dessus, ton cœur simple t'a fait une réponse juste. C'est qu'il te fallait une bonne amie, simple et juste comme toi-même, et sans malice, fierté ni folie. Or, je te tromperais vilainement si je te disais que je suis ton fait. Que ce soit caprice ou défiance, je ne me sens portée pour aucun de ceux que je peux choisir, et je ne voudrais pas répondre de changer bientôt. Plus je vas, plus ma liberté et ma gaieté me plaisent. Sois donc mon ami, mon camarade et mon parent. Je t'aimerai comme j'aime Joseph, et mieux encore si tu es plus fidèle à mon amitié. Mais ne songe plus à m'épouser. Je sais que tes parents y seraient contraires, et moi-même je le serais malgré moi, et avec le regret de te mécontenter. Voyons, voilà qu'on nous observe et qu'on court après nous pour déranger le discours trop long que nous faisons ensemble. Veux-tu ne me point bouder, prendre ton parti et me rester frère? Si tu dis oui, nous ferons la jaunée de Saint-Jean en arrivant au bourg, et nous ouvrirons gaiement la danse tous les deux. Allons, Brulette, lui dis-je en soupirant, c'est comme tu voudras. Je ferai mon possible pour ne plus t'aimer que comme tu me le commandes. Et dans tous les cas, je te resterai bon parent et bon ami, comme c'est mon devoir. » Elle me prit la main, et s'amusant à faire galoper ses amoureux, elle courut avec moi jusque sur la place du bourg, où déjà les vieux de l'endroit avaient dressé les fagots et la paille de la jaunée. Brulette fut requise, comme étant arrivée la première, d'y mettre le feu, et bientôt la flamme s'éleva jusqu'au-dessus du porche de l'église. Mais nous n'avions point de musique pour danser, lorsque le garçon à carnat, qui s'appelait François, arriva avec sa musette et ne se fit point prier pour nous venir en aide, car lui aussi en tenait sa bonne part pour Brulette, comme les autres. On se mit donc à baler bien joyeusement. Mais, au bout de peu de minutes, chacun s'écria que cette musique coupait les jambes. François Carnat y était encore trop novice, et il avait beau faire de son mieux, on ne pouvait pas se mettre en train. Il s'en laissa plaisanter et continua, bien content d'avoir occasion de s'exercer, car c'était, je le crois, la première fois qu'il faisait danser le monde. Ça ne faisait l'affaire de personne, et quand on vit que cette danse, au lieu d'adoucir les jambes déjà lasses, ne faisait que les achever, on parla de se dire bonsoir ou d'aller finir la journée entre hommes au cabaret. Brulette et les autres fillettes se récrièrent, nous traitant de beuvrages et de malplaisants garçons. Et cela fit un débat, au milieu duquel un grand beau sujet se montra tout d'un coup, avant qu'on eût pu voir d'où il sortait. « Oui, da, enfant » cria-t-il d'une voix si forte qu'elle couvrit tout notre vacarme et se fit écouter d'un chacun. « Vous voulez danser encore? Qu'à cela ne tienne. Voilà un cornemuseux de rencontre qui vous en baillera tant que vous en voudrez, et qui mêmement ne vous prendra rien pour sa peine. « Donnez-moi ça, » dit-il à François Carnat, « et m'écoutez, ça vous pourra servir. » Car encore que je ne fasse point mon état de musiquer, j'en sais un peu plus long que vous. » Et sans attendre le consentement de François, il enfla sa musette et se mit à en jouer, aux cris de joie des filles et aux grands remerciements des garçons. J'avais, dès les premiers mots, reconnu la voix et l'accent bourbonnais du muletier. Mais je ne pouvais en croire mes yeux, tant je le voyais changer à son profit. Au lieu de son sarrau en charbonnet, de ses vieilles guêtres de cuir, de son chapeau cabossé et de sa figure noire, il avait un habillement neuf, tout en fin droguet blanc jaspé de bleu, du beau linge, un chapeau de paille enrubanné de 36 couleurs, la barbe faite, la face bien lavée et rose comme une pêche. Enfin, c'était le plus bel homme que j'ai vu de ma vie. Grand comme un chêne, bien pris de tout son corps, la jambe sèche et nerveuse, les dents comme un chapelet de graines d'ivoire, les yeux comme deux lames de couteau, et l'air avenant d'un bon seigneur. Il reluquait toutes nos filles, souriant aux belles, riant jusqu'aux oreilles devant celles qui n'avaient pas bonne grâce, mais se montrant joyeux et bon compère à tout le monde, encourageant et animant la danse de l'œil, du pied et de la voix. Car il ne soufflait que peu dans la musette, tant il était habile à gouverner son vent, et disait, entre chaque bouffée, mille drôleries et sornettes qui mettaient tous les esprits en joie et folie. Et de plus, au lieu de compter les reprises et carrements, comme font les ménétriers de profession, qui s'arrêtent tout juste quand ils ont gagné leurs deux sous par chaque couple, il se mit à cornemuser d'affilée un bon quart d'heure durant, changeant ses airs on ne sait comment, car il passait de l'un à l'autre sans qu'on en vît la couture. Et c'étaient les plus belles bourrées du monde, toutes inconnues chez nous, mais si enlevantes et d'un mouvement si dansable qu'il nous semblait voler en l'air plutôt que gigoter sur le gazon. Je crois qu'il aurait cornemusé et que nous aurions dansé toute la nuit sans nous lasser, ni lui ni nous autres, s'il n'eût été dérangé par le père Carnat, lequel, du cabaret de la Biaude, entendant si bien mener sa musette, était arrivé, bien étonné et bien fier du savoir de son garçon. Mais quand il vit l'instrument dans les mains d'un étranger, et François qui prenait sa part de la danse sans songer à mal, la colère le gagna. Et, poussant le muletier par surprise, il le fit sauter de la pierre où il était juché, tout au beau milieu de la danse. Maître Huriel fut un peu étonné de l'aventure, et, se retournant, il vit Carnat, tout dépité, qui lui faisait semonce de lui rendre son instrument. « Vous n'avez point connu, Carnat, le cornemuseux. C'était déjà un homme d'âge en ce temps-là, mais encore solide et malicieux comme un vieux diable. » Le muletier commença de lui montrer les poings, mais, retenu par ses cheveux blancs, il lui rendit doucement la musette en lui répondant « Vous auriez pu m'avertir avec plus d'honnêteté, mon vieux. Mais s'il vous fâche que je prenne votre place, je vous la rends de bon cœur, d'autant que je serai content de danser à mon tour, si la jeunesse d'ici veut souffrir un étranger en sa compagnie. » « Oui, oui, dansez, vous l'avez bien gagné !» cria le monde de la paroisse, qui s'était tout rassemblé autour de sa belle musique, et qui déjà s'était affolé de lui, les vieux comme les jeunes. « Or donc, » dit-il en prenant la main de Brulette, qu'il avait regardée plus que toutes les autres, « je demande, pour mon paiement, de danser avec cette jolie blonde, quand même elle serait déjà engagée. » « Elle est engagée avec moi, Huriel, » dis-je au muletier. « Mais comme nous sommes amis, je te cède mon droit pour cette bourrée. »« Merci, » répondit-il en me donnant une poignée de main. Et il ajouta dans mon oreille, « Je ne voulais point avoir l'air de te connaître. Si tu n'y vois pas d'inconvénient pour toi, à la bonne heure. » « Ne dites pas que vous êtes muletier, » repris-je, « et tout ira bien. » Tandis qu'un chacun me questionnait sur l'étranger, une autre question s'élevait sur la pierre des ménétriers. Le père Carnat ne voulait ni jouer, ni faire jouer son garçon. Mêmement, il lui faisait grand reproche de s'être laissé supplanter par un homme inconnu. Et plus on voulait arranger la chose en lui disant que cet étranger ne prenait pas d'argent, plus il se fâchait rouge. Il en vint à ne se plus connaître quand le père Maurice Viaud lui dit qu'il était un jaloux et que cet étranger en remontrerait à tous ceux de son état dans le pays. Alors il vint au milieu de nous et, s'adressant à Huriel, lui demanda s'il n'avait pas tante pour cornemuseux. ce qui fit rire tout le monde, et le muletier encore plus. Enfin, sommé de répondre à ce vieux enragé, Huriel lui dit « Je ne sais pas les coutumes de votre pays, mon vieux, mais j'ai assez voyagé pour connaître la loi, et je sais que nulle part en France les artistes ne paient pas tant. »
Les artistes ?
Fit Carnat, étonné d'un mot que, pas plus que nous, il n'avait jamais ouï employer.
« Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce une sottise que vous me voulez dire ?»«
Non, point, » reprit Huriel. « Je dirais les musiques, si vous voulez, et je vous déclare que je suis libre de musiquer sans payer aucun droit au roi de France. »«
Bien, bien, je sais ça, » répondit Carnat. « Mais ce que vous ne savez pas, vous, c'est qu'au pays d'ici, les musiqueux payent un droit au corps des ménétriers pour avoir licence d'exercer, et ils en reçoivent lettre patente s'ils en sont agréés après les épreuves.
« Oui, da, je connais cela, » répondit Huriel, « et c'est très bien quelle monnaie il faut empocher ou débourser dans vos épreuves. Je ne vous conseillerais pas de m'y essayer, mais heureusement pour vous, je n'exerce pas votre état et ne prétends rien chez vous. Je joue gratis où il me plaît, et cela, nul ne m'en peut empêcher, par la raison que je suis reçu maître sonneur, tandis que vous ne l'êtes peut-être point, vous qui parlez si haut. »
Carnat s'apaisa un peu à cette parole, et ils se dirent tout bas quelques mots que personne n'entendit, par lesquels ils se firent connaître l'un à l'autre qu'ils étaient de la même corporation, sinon de la même compagnie. Les deux Carnat, n'ayant plus rien à objecter, vu que tout le monde rendait témoignage pour Huriel qu'il avait joué sans se faire payer, se retirèrent, tout grommelant, et en disant des malhonnêtetés que personne ne voulut relever, afin d'en finir. Dès qu'ils furent partis, on appela la Marie Guillard, qui était une petite jeunesse très subtile de sa langue, et on la fit chanter, pour que l'étranger pût avoir son plaisir de la danse. Il ne dansait pas de la même manière que nous autres, encore qu'il s'accordât très bien à nos carrements et à notre mesure, mais il avait meilleure façon et donnait du jeu à tout son corps si librement qu'il paraissait encore plus beau et plus grand que de coutume. Brulette y fit attention, car au moment qu'il l'embrassa, comme c'est la manière de chez nous au commencement de chaque bourrée, elle devint toute rouge et confuse, contrairement à son habitude, qui était tranquille et indifférente à ce baiser-là. J'en augurais qu'elle m'avait un peu surfait son mépris pour l'amour, mais je n'en témoignais rien, et j'avoue qu'en dépit de tout, je me coiffais pour mon compte des grands talents et des belles façons du muletier. La danse finie, il vint à moi, tenant Brulette par le bras et me disant « C'est à ton tour, mon camarade, et je ne peux pas te faire plus grand remerciement que de te rendre cette jolie danseuse. » C'est une vraie beauté de mon pays, et à cause d'elle je fais réparation à la race berrichonne. Mais pourquoi finir si tôt la fête? Est-ce qu'il n'y a pas dans votre bourg une autre musette que celle de ce vieux chagriné?
Si fait, dit vivement Brulette, à qui l'envie de danser encore fit échapper le secret qu'elle eût voulu garder. Mais tout aussitôt elle se reprit en rougissant et ajouta « Du moins, il y a des pipeaux et des porchers qui en savent jouer tant bien que mal. »«
Fi des pipeaux !» dit le muletier. « Si on vient à rire, on les avale et ça fait tousser. J'ai la bouche trop grande pour ces instruments-là, et c'est pourtant moi qui veux vous faire danser, gentille Brulette, car c'est votre nom, je l'ai entendu, » dit-il encore en s'éloignant un peu avec elle et moi. Et je sais qu'il y a chez vous une musette belle et bonne, venant du Bourbonnais et appartenant à un certain Joseph Picot, votre ami d'enfance, votre camarade de première communion.
« Oh, d'où savez-vous cela ? » dit Brulette, bien confondue. « Vous connaissez donc notre Joseph ? Et peut-être pourriez-vous nous dire où il a passé ? »
« En êtes-vous en peine ? » dit Huriel en l'observant.
« Si fort en peine que je vous remercierai d'un grand cœur de m'en donner des nouvelles. Eh bien, je vous en donnerai, mignonne, mais pas avant que vous m'ayez remis sa musette, que je suis chargée de lui porter au pays où il est maintenant.
Quoi ? Dit Brulette. Il est donc déjà bien éloigné ?
Assez pour ne pas avoir envie de revenir.
Vrai ? Il ne reviendra pas ? Il s'en va pour tout à fait ?
Voilà qui m'ôte l'envie de rire et de danser.
Oh, ma belle enfant, fit Huriel. Vous êtes donc la fiancée de ce petit Joseph ? Il ne m'avait pas dit cela.
Je ne suis la fiancée de personne, répondit Brulette en se redressant.
Et pourtant, reprit le muletier, voilà un gage qu'on m'a dit de vous montrer dans le cas où vous douteriez que je suis chargée d'emporter la musette.
Où donc ? Quel gage ?
Fis-je à mon tour.
Regardez à mon oreille, dit le muletier en relevant une poignée de ses cheveux noirs tout crépus et en nous montrant un tout petit cœur en argent passé par son anneau à une grande boucle en or fin qui lui traversait l'oreille à la manière des bourgeois de ce temps-là. Je crois bien que ses oreilles percées commencèrent à donner dans la vue de Brulette, car elle lui dit « Vous n'êtes pas ce que vous paraissez, et je vois bien que vous n'êtes pas un homme à vouloir tromper de pauvres gens. D'ailleurs, c'est bien à moi le gage que vous portez là, ou plutôt c'est à José, car c'est un cadeau que sa mère m'a fait le jour de notre première communion et que je lui ai donné en souvenance de moi, le lendemain quand il a quitté la maison pour entrer dans un service. « Or donc, tiennez, me dit-elle, va-t'en à mon logis chercher la musette et apporte-la sous le porche de l'église où il fait noir, sans qu'on voie où tu l'as prise, car le père Carnat est un homme méchant, qui ferait des peines à mon grand-père s'il savait que nous nous sommes prêtés à une pareille chose. »
Septième veillée. Je fis ce qui m'était commandé, laissant, à contre-cœur, Brulette seule avec le muletier, dans un endroit de la place déjà bien embruni par la nuit tombante. Quand je revins, portant la musette pliée et démontée sous ma blouse, je l'ai retrouvée au même coin, devisant avec beaucoup d'action. Et Brulette me dit « Tiennez, je te prends à témoin que je ne suis point consentante à donner à cet homme-là le gage qu'il a pendu à son oreille. Il prétend ne me le point rendre, parce que, de fait, c'est propriété pour José. Mais il dit que José ne le lui reprendra pas, et encore que ce soit une petite chose qui n'a pas la conséquence de 10 sous vaillants, il ne me plaît pas d'en faire don à un étranger. » Je n'avais pas plus de 12 ans quand je l'ai baillé à José, et il faudrait être fin pour y entendre malice. Mais puisqu'on veut qu'il y en ait, ce m'est une raison de plus pour le refuser à un autre. » Il me sembla que Brulette se donnait trop de mal pour enseigner au muletier qu'elle n'était point l'amoureuse de José, et que, pour sa part, le muletier était content de lui trouver le cœur libre d'engagement. En tout cas, il ne se gêna guère pour continuer à la courtiser devant moi. « Mignonne, lui dit-il, vous avez tort de vous défier. Je ne veux faire montre de vos dons à personne, encore qu'il y eût de quoi être glorieux s'ils étaient miens. Mais je reconnais ici, devant Tiennet, que vous ne m'encouragez point à vous aimer. Dire que cela m'en empêchera, je n'en réponds pas. Mais, à tout le moins, vous êtes forcé de souffrir que je me souvienne de vous, et que j'estime ce gage de 10 sous vaillant à mon oreille plus qu'aucune autre chose que j'ai jamais convoitée. Joseph est mon ami, et je sais qu'il vous aime. Mais l'amitié de ce garçon-là est si tranquille qu'il ne songera pas seulement à me redemander son gage. Or donc, si nous nous revoyons dans 1 an ou dans 10, vous le retrouverez là, à moins que l'oreille n'y soit plus. Et disant ainsi, il prit et embrassa la main de Brulette et se mit en devoir de rajuster et d'enfler la cornemuse.
« Que faites-vous là ? » lui dit-elle. « Quant à moi, je vous l'ai dit, puisque José quitte sa mère et ses amis pour longtemps, j'ai de la peine et ne veux plus me divertir. Et tant qu'à vous, vous vous mettez en danger d'une bataille si d'autres cornemuseux du pays viennent à passer. »
« Bah, bah !» répondit Huriel. « C'est ce qu'on verra.
ne vous inquiétez pas de moi. Et quant à vous, Brulette, vous danserez, ou je croirai que vous êtes amoureuse d'un ingrat qui vous quitte. »
Soit que Brulette eût trop de fierté pour laisser prendre cette idée-là, soit que le diable de la danse fût plus fort qu'elle, sitôt que la musette, dressée et enflée, commença de sonner, elle n'y put tenir et se laissa emmener par moi à la bourrée. Vous ne sauriez croire, mes amis, quel cri de contentement et d'émerveillance il y eut sur la place, au bruit tonnant de cette musette bourbonnaise et au retour du muletier, que l'on croyait déjà parti. On ne dansait plus que d'un pied et on allait finir, quand il reparut sur la pierre des ménétriers. Aussitôt se devint comme une rage. On ne s'y mit plus à 4 ni à 8, mais bien à 16 ou à 32, se tenant par les mains, sautant, criant et riant, que le bon Dieu n'aurait pu y placer un mot. Et bientôt, après, les vieux, les jeunes, les petits-enfants, qui ne savaient pas encore mener leurs jambes, comme les grands-pères qui ne tenaient quasi plus sur les leurs, les vieilles qui se trémoussaient à l'ancienne mode, les gars maladroits qui n'avaient jamais pu mordre à la mesure, tout se mit en branle, et pour un peu, la cloche de la paroisse s'y serait mise aussi d'elle-même. Jugez donc une musique, la plus belle qu'on eût ouïe au pays, et qui ne coûtait rien. Même elle paraissait aider du diable, puisque le cornemuseux ne demandait jamais grâce et faisait éreinter tout le monde sans se lasser. « J'en veux avoir le dernier !» s'écriait-il à chaque fois qu'on lui conseillait de se reposer. « Je prétends que la paroisse entière y crève et que nous soyons encore tous ici au lever du soleil. Moi, debout et vaillant, vous autres me demandant merci. » Et lui de cornemuser, et nous tous de trépigner comme des fous. La mère Biaude, voyant qu'il y avait là de l'ouvrage et du profit, avait fait apporter des bancs, des tables, du boire et du manger. Et, comme de ce dernier article elle n'était pas assez fournie pour tant de ventres creusés par la danse, un chacun se mit en devoir de livrer aux amis et parents qu'il avait là tout ce que son logis contenait de victuailles pour la semaine, qui apportait un fromage, qui un sac de noix, qui un quartier de chèvre ou un cochon de lait, lesquels furent rôtis ou grillés à la cantine vitement dressés. C'était comme une noce, où les voisins se seraient invités les uns les autres. Les enfants ne se couchèrent point, on n'eut pas le temps d'y songer, et ils dormirent en tas de moutons sur le bois de travail, toujours emmagasinés sur le commun, au bruit enragé de la danse et de la musette, qui ne s'arrêtait que le temps d'entonner au cornemuseux une chopine de meilleur vin. Et tant plus il buvait, tant plus il était gaillard et cornemusait en manière admirable. Enfin, l'appétit venant au plus solide, Huriel fut forcé de finir, faute de danseur à contenter. Et, ayant gagné sa gageure de nous enterrer tous, il consentit à souper. Chacun l'invitait et se disputait l'honneur et le plaisir de le régaler. Mais voyant que Brulette venait à ma table, il accepta mon offre et s'assit à côté d'elle, tout bouillant d'esprit et de belle humeur. Il y mangea, vite et bien. Mais, au lieu d'être appesanti par la digestion, il fut le premier à lever son verre pour chanter. Et malgré qu'il eût bouffé 6 heures durant comme un orage, il avait la voix aussi fraîche et aussi juste que si de rien n'était. On essaya de lui tenir tête, mais les plus renommés chanteurs y renoncèrent, bientôt pour le plaisir de l'écouter, car rien ne valait auprès de ses chansons, tant pour les airs que pour les paroles, et on avait même grand-peine à lui donner le refrain, car il n'y avait rien dans son sac qui ne fût tout neuf pour nos oreilles et d'une qualité qui dépassait tout notre savoir. On quitta toutes les tables pour l'entendre, et au moment que le jour levant commença de percer à travers la feuillée, il y avait autour de nous une foule plus charmée et plus attentionnée qu'au plus beau prêche. Alors il se leva, monta sur son banc, et présenta son verre vide au premier rayon du soleil qui passait au-dessus de sa tête, en disant,
d'un air qui nous fit trembler tous, sans qu'on sût ni pourquoi ni comment. « Ami, voilà le flambeau du bon Dieu. Éteignez vos petites chandelles et saluez ce qu'il y a de plus clair et de plus beau dans le monde. » Et à présent, dit-il en se rasseyant et en posant son verre retourné sur la table. « Assez causé, assez chanté pour une nuit. Que faites-vous là, sacristain? Allez sonner l'Angélus et qu'on voit ceux qui se signeront chrétiennement. À cela, on connaîtra celui qui s'est diverti honnêtement de celui qui s'est abruti comme un sot. Après que nous aurons rendu tous gloire à Dieu, je vous quitterai, mes enfants, vous remerciant de m'avoir fait si bonne fête et marqué tant de fiance. Je vous devais une petite réparation pour un dommage que j'ai causé, sans le vouloir, à quelques-uns d'entre vous, il n'y a pas longtemps. Devinez si vous pouvez. Moi, je ne suis pas ici à confesse, mais je pense avoir fait de mon mieux pour vous divertir, et le plaisir valant mieux que le profit, selon moi, je me crois quitte envers tous. » Et comme on voulait le faire expliquer, « Silence !» cria-t-il. « Voilà l'Angélus qui cloche !» Et il se mit à genoux, ce qui entraîna tout le monde à en faire autant, et même avec un recueillement singulier, car cet homme-là semblait avoir puissance sur les esprits. Quand on eut fini la prière, on le chercha. Il avait disparu, et si bien qu'il y eut des gens qui se frottèrent les yeux, pensant qu'ils avaient rêvé cette nuit de liesse et de folie.